On va ouvrir ensemble la Bible. Alors ce matin, nous n'allons pas continuer l'épître de Paul aux Colossiens. On va faire une petite pause, on reprendra dimanche prochain. En fin de compte, j'avais commencé à préparer la suite de notre étude sur les Colossiens, mais depuis plusieurs jours, une dizaine de jours, il y a un verset qui est revenu plusieurs fois dans mon cœur. Et j'aimerais le partager avec vous ce matin. Nous le trouvons dans l'épître de Jacques. Épître de Jacques. Au chapitre 4 et au verset 7. Un court verset, mais ô combien important. Jacques chapitre 4 et le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. On va le relire, mais en lisant le verset 6 avec, juste avant. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. L'épître de Jacques est une épître extraordinaire, et on aurait pu lire le chapitre 3, ce qu'il y a avant, et dans le chapitre 3, Jacques nous parle du fléau de la langue. Cette langue avec laquelle on peut bénir Dieu, on peut faire du bien aux autres. Mais malheureusement, avec cette même langue, nous pouvons faire beaucoup de mal. Et puis, le début du chapitre 4 est assez dur, assez sévère. En fait, Jacques s'adresse à des personnes dont la foi est superficielle. Et il leur rappelle certaines choses avec une certaine solennité, avec une certaine sévérité, mais aussi avec amour. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte aussi difficile, un contexte de combat spirituel, et l'adversaire de nos âmes, notre ennemi, Satan, comme il est cité ici, eh bien, ne saisit toutes les occasions qui se présentent à lui pour nous nuire, pour nous faire périr. Aussi Jacques rappelle ici de lui résister, de résister au diable. Mais n'oublions pas ce qui est écrit juste avant, de se soumettre à Dieu. On ne peut résister efficacement au diable tant qu'on n'est pas soumis à Dieu. C'est pour cela qu'au verset 6, il est question d'humilité. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, Dieu nous résiste. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et au verset 10, Jacques dira encore, écrira, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il est question d'humilité. Se soumettre à quelqu'un, c'est d'arrêter, selon la définition, de lui résister. On peut résister à Dieu, résister à ses invitations, résister à son appel. Résister à sa parole, résister à son autorité. Mais à partir du moment qu'on se soumet, on a arrêté de résister à Dieu. On a arrêté de résister à son autorité, on l'accepte dans notre vie. on accepte la parole de Dieu dans notre vie, on accepte que cette parole nous façonne, que cette parole nous montre le chemin à suivre. Quand on se soumet à quelqu'un, on se rend dépendant de lui. Et nous sommes les uns et les autres totalement dépendants du Seigneur. À partir du moment où on commence à s'imaginer qu'on peut faire les choses sans Dieu, on n'est plus soumis. On n'est plus soumis. Nous n'en faisons qu'à notre tête. La soumission est un acte volontaire. C'est un état d'esprit dans lequel nous sommes. Il viendra un temps où Dieu soumettra le monde entier. Tout genou fléchira devant lui. C'est lui qui le fera. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas à l'Église de chercher à soumettre le monde. C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera. Un jour, tous les hommes fléchiront devant lui. Mais aujourd'hui, c'est une invitation. Dieu nous invite à nous soumettre à lui. Nous acceptons son autorité dans notre vie. Nous acceptons sa parole. Sa parole qui nous place devant des choix, cette parole qui est là dans notre cœur. Aussi, au verset 4, Jacques dira, et il me semble qu'on l'a lu il n'y a pas si longtemps, « Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est impossible de faire les deux en même temps. C'est impossible de faire les deux en même temps. Lors donc que nous sommes orgueilleux, lorsque nous nous faisons passer en premier, nous résistons à Dieu et forcément, lui, il nous résiste. Nous en avons un triste exemple avec Pharaon. Pharaon qui pourtant voyait la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu, mais dans son orgueil, Pharaon ne voulait pas se soumettre à Dieu. Pour lui, l'Éternel, c'était qui ? Le Dieu de ses esclaves. Et il ne voulait pas, lui qui se prenait pour le maître du monde, un Dieu sur terre, il ne voulait pas se soumettre devant l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et malheureusement, cela l'a conduit à sa perte et à la ruine de tout son peuple. Dieu résiste aux orgueilleux. On pourrait trouver un autre exemple en la personne du prophète Jonas, un homme de foi, un homme de Dieu, un homme qui a reçu une direction de la part du Seigneur, mais cet homme ne veut pas aller dans la direction que Dieu voulait l'amener. Il ne voulait pas aller à Ninive, il est parti en direction inverse. Aussi, nous avons vu comment Dieu va résister à ce prophète pour le faire ramener dans son plan qu'il avait prévu pour lui et pour cette ville, parce que Dieu voulait aussi sauver cette ville, ce que ne voulait surtout pas Jonas. Aussi, lorsque Jonas va annoncer le message que Dieu lui a demandé de faire, cette ville, étonnamment, dans son entier, va se repentir et se soumettre à l'appel de Dieu, se soumettre à la volonté du Seigneur. Nous pourrions trouver d'autres exemples, et notamment, eh bien, Jacques en cite quelques exemples dans son épître. Par exemple, à partir du verset 13, il dira « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnons. » Voilà des personnes qui ne se soucient pas de connaître la volonté de Dieu, qui ne sont pas soumis à Dieu, qui se disent ben, « Maintenant, ils font des projets, ils font plein de projets. » Mais au verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qui peut dire ?» Alors demain, on a notre agenda, on sait ce qu'on a prévu de faire, c'est marqué dans notre agenda. Mais vous savez, il y a ce qui est écrit dans notre agenda, et puis il y a ce qu'on ne sait pas, que Dieu seul sait, que lui a prévu, que lui il sait, mais que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Voilà ce que rappelle Jacques. Voilà ce qu'il nous rappelle à nous aussi. Voilà ce que la parole de Dieu, eh bien, nous rappelle. Et nous voulons, bien sûr, soumettre notre volonté. Dieu nous a créés avec la volonté. Il nous a créés avec cette capacité de vouloir. Mais ce n'est pas pour qu'on en fasse qu'à notre tête. Nous voulons soumettre notre volonté à celle du Seigneur. Soumettons-nous donc au Seigneur selon ce que nous dit ici la parole de Dieu. Passons maintenant à notre deuxième point et qui est très extrêmement important. Résister au diable. Résister au diable. Résister, c'est faire face à quelqu'un ou à une situation. C'est ne pas céder devant la pression. Nous avons pu, il y a quelques années, visiter la fameuse tour de Constance qui se trouve dans la ville d'Egmore. Je ne sais pas si vous l'avez visitée, si un jour vous passez par là-bas, ça vaut le détour. Cette femme, une femme, Marie Durand, pas que elle, mais plusieurs autres, elle a été emprisonnée dans cette tour de Constance à cause de sa foi en Jésus. Elle n'avait rien fait de mal, tout comme les autres femmes qui étaient là, qui ont été emprisonnées dans cette tour. Quand on voit dans le lieu où ces femmes ont été mises en prison, c'est assez obscur. L'hiver est courant d'air, le froid, on peut s'imaginer la vie que ces femmes ont vécue. Une d'elles, Marie Durand, a vécu 38 ans enfermée dans cette prison, dans cette tour de Constance. Elle avait 19 ans quand elle est rentrée, elle en avait 57 quand elle est sortie, 38 ans. Et elle a gravé une pierre, sur la pierre, elle a gravé, excusez-moi, un mot, un verbe, résister. 38 ans, elle a résisté. Et elle a encouragé ses sœurs en la foi à résister. Il leur suffisait de dire simplement trois mots pour pouvoir être libérés. Ces trois mots, très simples. Je me réunis. En disant ceci, en disant je me réunis, elles confessaient par là qu'elles reniaient leur foi protestante, leur foi en Jésus, et se réunissaient à l'Église catholique, l'Église dominante de l'époque. Il leur suffisait de dire simplement ça et elles étaient libres. Mais elles ont résisté. Elles ont résisté. Avec la même détermination, avec la même foi, nous voulons résister au diable. Nous voulons lui résister avec une foi ferme. Nous voulons lui résister car c'est notre adversaire, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Il est appelé encore l'accusateur des frères, car il nous accuse devant Dieu. Il nous accuse les uns vis-à-vis des autres. Et il emploie cette arme afin qu'on s'accuse les uns les autres et ainsi semer la discorde. Et puis il accuse aussi notre conscience. Aussi nous voulons lui résister. Il est encore appelé le père du mensonge. Il est le menteur. Il est le menteur. Il est le tentateur. Il est le tentateur. Et nous voulons lui résister face à cet accusateur. Nous voulons garder la foi en celui qui nous pardonne. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Nous savons en qui nous avons cru, nous savons qu'en Jésus nous avons un plein pardon. Et si nous avons péché, nous voulons confesser notre péché au Seigneur, sachant qu'il est celui qui nous pardonne. Et si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia. Face à ce menteur, nous voulons opposer la vérité. Face à celui qui est le tentateur, Nous voulons lui résister en veillant et priant. Car si l'esprit est bien disposé, nous le savons, la chair, elle est faible. Et nous voulons veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Résister, c'est faire face, c'est ne pas céder. Lisons un verset, un passage qui rejoint ce que nous venons de dire dans la première épître de Pierre au chapitre 5, verset 8. Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme. On va reparler de la foi, c'est extrêmement important. Comment donc lui résister ? Comment donc lui résister ? La première des choses, c'est de ne pas lui donner accès. C'est pour ça que Pierre dira « Soyez sobre », car le manque de sobriété fait que le diable trouve un accès dans notre cœur. Lisons dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, bon, ça n'arrive jamais, hein. Enfin, de temps en temps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et quoi, verset 27 ? Ne donnez pas accès au diable. Ouais. Quand même se rappeler qu'ici, l'apôtre Paul s'adresse à des frères et sœurs en la foi, des chrétiens. Ne lui donnons pas accès. Lorsque, alors ça peut, bien sûr, ça peut arriver à tous de se mettre en colère. Mais le problème, c'est lorsqu'on s'enferme dans la colère. Lorsqu'on s'enferme dans la colère, notre cœur peut devenir amer, aigri. Lorsqu'on s'enferme dans la colère, quand bien même on aurait raison, je dirais quand bien même on aurait raison, parce que parfois on dit, oh, je suis dans mon droit. Oui, mais là, où c'est un piège, si on s'enferme dans cette colère, on donne un accès au diable. L'amertume va gagner notre cœur, l'aigreur va gagner notre cœur, la rancune va gagner notre cœur. Et pour se débarrasser des liens de l'amertume, c'est extrêmement difficile. Aussi, nous voulons ne pas nous enfermer. C'est pour ça que Paul dira que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Afin que nous ne donnions pas accès au diable. Accès au diable. Lisons encore dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Verset 10. Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Et lisons bien le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ici, l'apôtre Paul parle du pardon, il parle, on aurait pu lire ce qui est écrit précédemment, il parle de quelqu'un qui a été un sujet de tristesse, dans l'Église. Et bon, voilà, il part de cela. Il semblerait donc que cet homme fait acte de repentance. Et l'apôtre Paul invite au pardon et il dira « à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Je pardonne aussi. Je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Et il dira, quand il parle du pardon, il dira quoi ? « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Quels sont les desseins du diable ? Quels sont ses projets ? Ses projets, ses desseins du diable, c'est de détruire l'Église, c'est de semer la zizanie entre nous. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et il emploie le mensonge, il emploie les accusations dont j'ai parlé tout à l'heure, il emploie des demi-vérités, etc. Il nous fait croire des choses qui ne sont pas. Et lorsque nous manquons de pardon les uns vis-à-vis de d'autres, le diable trouve un accès et il prend l'avantage. Quand il prend l'avantage, ça veut dire quoi ? Il prend le dessus. C'est ça ce que ça veut dire. Et nous ne voulons pas qu'il ait le dessus. Nous ne voulons pas qu'il ait l'avantage. Aussi, nous pouvons lui résister par le pardon. Alléluia. Lorsque nous nous pardonnons les uns les autres, lorsque on a reçu une parole de travers, lorsque peut-être il y a des choses qui ne nous ont pas plu, et si mon frère, ma sœur en la foi vient, me demande pardon, alors je pardonne. Alléluia. Nous ne voulons pas que Satan ait l'avantage, nous ne voulons pas que la zizanie prenne de l'ampleur au milieu de nous. Nous voulons lui résister, alléluia, résister au diable. Lisons encore un autre passage dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, toujours cette épître aux Éphésiens qui est extraordinaire. Éphésiens chapitre 6, on peut lire à partir du verset 13. Allez, on connaît bien ce passage. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. On va retrouver le verbe dont on parle. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et après ça, il nous est invité de prier par l'esprit. Alors on pourrait évidemment parler de chacune de ces armes qui composent l'armure, notre armure spirituelle, bien sûr, comprenez bien. Mais j'aimerais juste m'arrêter un peu sur une d'entre elles dont il est question au verset 16. C'est le bouclier de la foi. Et il nous est dit que ce bouclier de la foi, avec lui nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors quand nous lisons cela, nous avons, en tout cas moi j'ai l'image d'un champ de bataille avec des armées qui s'affrontent et une armée ne pouvant pas s'approcher de l'autre, elle décoche des flèches dans lesquelles elles ont trempé le bout de la flèche dans de la graisse, dans de l'enduit, et ils ont mis le feu pour faire le maximum de dégâts dans le camp ennemi. Non seulement afin que ça perce, mais en plus que le feu se propage un peu partout. On utilise les flèches, on utilise cette arme, l'arc avec les flèches, lorsqu'on ne peut pas s'approcher de son ennemi. L'épée, c'est l'arme du corps à corps, quand on est rapproché. Mais on utilise l'arc quand on est loin de son ennemi et qu'on ne peut pas s'en approcher pour différentes raisons. Or, nous allons voir que le diable, bien sûr, il fuit loin de nous, il s'éloigne de nous lorsqu'on lui résiste et qu'on est soumis à Dieu. Il ne peut plus donc s'approcher de nous, mais néanmoins, se tenant éloigné, il peut nous décocher quelques traits enflammés. quelques traits enflammés. Mais ces traits enflammés, nous pouvons les éteindre, alléluia, avec le bouclier de la foi. Nous pouvons résister au diable avec une foi ferme, avec une foi ferme. Le diable est vaincu en Christ, alléluia, il est vaincu. Ses jours sont comptés, j'allais dire. Il est vaincu en Christ. Et si nous restons en Christ, le malin ne nous touche pas. Nous voulons demeurer en Christ, comme nous l'avons dit dimanche dernier. Nous voulons vraiment être en Christ en tout temps. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra nous en séparer. Aussi, lorsque nous sommes atteints par différents traits, eh bien, nous voulons saisir ce bouclier de la foi. Des épreuves, nous en avons. Il y a les épreuves, j'allais dire, courantes de la vie, mais il y a aussi des épreuves beaucoup plus intenses qui sont comme ces traits enflammés du malin. On peut penser à cet homme de Dieu en son temps dans l'Ancien Testament, on le voit, c'est Job, qui a été la cible du diable. On voit cette scène au chapitre 1er, lorsque l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan, il faisait du tourisme, de parcourir la terre et de m'y promener. Mais il avait remarqué un homme, Job. Il avait remarqué un homme. Et Dieu lui dira, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Bien sûr qu'il l'avait remarqué. Et là, on voit que Job est devenu la cible du diable. Dieu a permis à Satan d'éprouver Job jusqu'à une certaine limite où il ne l'a pas permis. Nous savons, merci Seigneur, hein, il y a des choses que Dieu permet, d'autres choses qu'il ne permet pas. Il connaît nos limites. Il connaît nos limites. Et malgré tous les traits enflammés qu'a reçu Job, cet homme est resté intègre. Il avait une foi solide. Il savait qu'au jour il mourrait, quand ma peau sera détruite, il savait qu'il verrait son Rédempteur. Alléluia. Il avait cette espérance. Il avait cette espérance en son Dieu. Bien sûr qu'il avait des choses encore à apprendre, que sa foi s'approfondisse. Mais il est resté ferme dans son intégrité. Alléluia. Il avait ce bouclier de la foi et nous voulons aussi nous saisir ce bouclier de la foi. Juste avant d'être crucifié, Jésus va rappeler certaines choses et va dire à Pierre que Satan l'a réclamé pour le cribler comme le froment. Voilà. Il y a des choses qu'on ignore qui se passent dans les lieux célestes. Il y a des choses qu'on ignore. Mais nous savons que Dieu veille sur nous. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Pierre ? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus n'a pas prié pour que le diable ne le touche pas ou ne lui lance pas d'épreuve ou quoi que ce soit, mais afin que sa foi ne défaille point. Voilà ce qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est de garder la foi. C'est de combattre ce bon combat de la foi. Parce que le diable viendra tout le temps essayer de nous nuire pour nous détruire, pour détruire l'Église. Mais si nous avons une foi ferme, il ne pourra pas nous toucher. Nous pourrons ainsi lui résister. Et au final, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fuir loin de nous. Alléluia ! Il va fuir. Mais n'inversons pas les choses. On voudrait que le diable fuit tout de suite. Mais avant cela, il faut pour nous nous soumettre à Dieu, lui résister. Et alors, il va fuir, et quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui a peur, et il a peur des enfants de Dieu qui sont soumis à Dieu. Il a peur des enfants de Dieu qui sont soumis à Dieu et qui lui résistent. Il en a peur. Quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui a peur. Le Seigneur nous a donné une puissance sur les ténèbres. Nous en sommes conscients. Lisons dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Quelle espérance magnifique nous avons. Amen. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas vous, mais quand on est face à un serpent, on n'est pas trop fier. Hein, on n'aime pas ce genre de bestioles, là, les serpents et les scorpions. Surtout qu'on ne les voit pas toujours. On ne les voit pas toujours. Mais ils sont bien là. Ils sont bien là. Alors, peut-être qu'en France, on n'a pas l'habitude. Des serpents, il y en a en France, mais scorpions, il y en a beaucoup moins, heureusement. Hein. Mais dans certains pays, ils sont habitués à ces bêtes-là. Et on fait attention. Dans certains endroits, on fait attention. On fait attention. Je vous rappelle, en Tunisie, il fallait faire attention sur certaines plages, parce qu'il y avait des scorpions sur les plages. Surtout qu'en plus, ils sont presque couleur sable. Alors, on ne les voit pas trop. On ne les voit pas trop. Mais si on marche dessus, ça peut faire mal, ça peut faire très mal. En tout cas, c'est pour cette raison qu'on ne marchait pas pieds nus sur le sable. On avait toujours des sandales à nos pieds. Et c'est important, on ne va pas parler des chaussures. Hein. Tout à l'heure, on a parlé du bouclier de la foi, mais dans l'armure, il y avait aussi les chaussures. Mais rappelons-nous que le Seigneur nous a donné cette puissance. C'est pour ça que le diable, il fuit. Il sait que nous avons une puissance que nous n'avons pas de nous-mêmes, mais que le Seigneur nous a donnée. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Rien ne pourra nous nuire. Alors, les disciples étaient dans la joie parce que les démons leur étaient soumis. Alléluia. Amen. C'était pas l'inverse. Merci Seigneur pour cette puissance que tu nous donnes. On peut lire encore dans Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Amen. Il écrasera le Dieu de paix. C'est lui qui le fait. C'est lui qui écrase, mais il le fait avec nos pieds, sous vos pieds. C'est pour ça qu'il a peur. Il sait ce qu'il attend. Il a peur des enfants de Dieu. La réalité, elle est là. Il a peur des enfants de Dieu parce qu'ils sont soumis à Dieu, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, parce que Christ est en eux. Que son nom soit glorifié, que le nom du Seigneur soit glorifié. Toutefois, j'aimerais quand même lire un autre verset dans Luc chapitre 4, verset 13. C'est à la fin de la tentation que le diable a fait à l'égard de Jésus. Verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Le diable n'a pas réussi à faire tomber Jésus. Jésus n'a pas cédé à la tentation du diable, à ses trois tentations. Parce que Jésus est resté intègre, parce que Jésus est resté attaché à la parole de Dieu, le diable n'a rien pu faire. Il nous est dit qu'il s'est éloigné. Si nous sommes soumis à Dieu, que nous résistons au diable, il va fuir loin de nous. Il va fuir, comme il l'a fait à l'égard de Jésus. Et il y a cette précision, il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigne, mais il nous épie, il nous surveille. Et lorsqu'il voit que nous sommes en état de faiblesse, lorsqu'il voit que peut-être on commence à perdre confiance, qu'on est découragé, qu'on est éprouvé, il sait que c'est un moment favorable pour nous tenter. Il sait que c'est un moment favorable pour nous accuser, nous faire sombrer dans la dépression. Il sait que c'est un moment favorable pour mentir à notre conscience, afin que nous perdons toute confiance vis-à-vis de Dieu et qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Ça, c'est un mensonge du diable. Dieu n'abandonne pas ses enfants, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Et il attendra toujours un moment favorable, comme il l'a fait pour notre Seigneur Jésus, il le fait pour nous. Jésus était dans un état de faiblesse sur la croix. Diable l'a retenté, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais il est resté ferme, il a résisté. Alléluia, il a résisté. Et nous pouvons nous aussi résister au diable en toute occasion. Mais nous voulons en tout temps rester vigilants. On ne peut pas se dire maintenant, c'est bien, il a fui, il nous laisse tranquilles. On est tranquille pour toujours. Non, en tout temps, nous voulons rester vigilants parce qu'il cherche à nous détruire et à détruire l'Église. Mais nos yeux à nous sont tournés toujours vers notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons mis notre confiance, en qui nous croyons. Il est celui qui nous a préparé une place dans la gloire. Alléluia. Il nous a préparé une place dans la gloire et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci Seigneur. Alléluia. Alors frères et sœurs, et je le dis pour moi aussi, nous ne voulons pas oublier le combat spirituel qui est le nôtre. Le combat spirituel pour l'Église, on a beaucoup parlé de l'Église cet été, c'est la cible du diable. Mais nous voulons rester soumis au Seigneur. Alléluia. Résister à toutes ces attaques. Il veut briser. Il veut détruire. Il veut rompre les relations entre nous. Mais nous voulons lui résister. Alléluia. Il veut dénaturer notre foi. Il veut dénaturer l'Église. Mais nous voulons résister avec une foi ferme. Et c'est certain, il va fuir loin de nous. Alléluia.